Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Deuxième temps de notre série consacrée à la corruption. Cette semaine, après nous être intéressés hier à la corruption systémique en Afrique et avant d'évoquer la mobilisation populaire demain, nous évoquons aujourd'hui la corruption comme outil d'influence internationale des dirigeants à la solde de puissances étrangères. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Si elle investit, on n'aura pas 27 mais 34% de vote aux élections. Il y a des gens très riches. Ils paient entre 500 000, 1 million et demi et 2 millions d'euros. En fait, ils ne versent pas d'argent directement à notre parti, mais à une association à but non lucratif. Explique et traduis ça, madame. Dis-lui que la Cour des comptes ne verra rien. Regardez, on parle de Strabag, une entreprise de construction d'autoroutes autrichienne. La première chose que je peux promettre, dans le cadre d'une participation au gouvernement, c'est que la société ne recevra plus de contrats. Nous aurons donc un énorme volume de chantiers potentiels.
Députés étrangers couverts de cadeaux ou invités pour de luxueux séjours en Russie, en Azerbaïdjan, juteux contrats offerts à de grands patrons dans l'espoir d'accéder à leurs oreilles, à l'oreille des dirigeants, ces pratiques attribuées à Moscou depuis l'ère soviétique sont revenues ces derniers mois sur le devant de la scène. Les soupçons de collusion entre les proches du président américain Donald Trump et la Russie ne cessant de défrayer la chronique aux États-Unis. Mais l'enjeu ne se limite pas à Donald Trump et aux États-Unis. Le mois dernier, le vice-chancelier autrichien Heinz Christian Strache a été poussé à la démission après la diffusion d'une vidéo dont on entendait un extrait à l'instant le montrant promettre des marchés publics à une jeune femme se présentant comme la nièce d'un oligarque russe en échange d'un soutien financier à son parti, le FPE. Ces images ont été perçues comme la preuve de la perméabilité de l'extrême droite européenne aux tentatives de corruption russe. De fait, outre le FPE autrichien, l'AFD allemande ou le Rassemblement national français se sont aussi vus reprocher leur lien avec Moscou. Mais les agents d'influence russes ne s'intéressent-ils vraiment qu'à l'extrême droite? À quand remontent ces pratiques de corruption internationale? Quelles sont leurs finalités à long terme et que révèlent-elles de la nature de la politique étrangère russe? Pour évoquer ces questions, nous avons invité François Stomme. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne et auteur d'un ouvrage, entre autres, intitulé « Comprendre le poutinisme pour sortir du mensonge » qui était paru l'année dernière chez Desclée des Brouwer. On a beaucoup commenté, François Stomme, les conséquences politiques pour l'Autriche de cette Ibiza Gate, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, avec la démission forcée du chef du FPE et l'effondrement de la coalition gouvernementale du côté de l'Autriche. En revanche, on a moins évoqué la facilité, au fond, avec laquelle Strache est tombé dans le piège tendu et combien il apparaît, au fond, pour tout le monde, totalement normal, si je puis dire, de proposer des contrats à des représentants supposés d'oligarques russes contre leur appui financier. C'est dire si, aujourd'hui, tous les pays ont intégré le fait que la Russie pratique l'ingérence, l'utilisation par la Russie d'agents corrupteurs, c'est devenu quasiment une donnée normale des relations internationales. C'est un classique de la politique étrangère russe.
Et le fait qu'elle se serve d'oligarque pour le faire aussi. Hein. Il était clair dans l'esprit de cet Autrichien qu'il pouvait obtenir de l'argent par la parente d'un oligarque. Donc c'est très clair dans les... cette méthode est maintenant tout à fait bien connue hein, des dirigeants intéressés et des autres.
Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, François Stomme, des relations, des liens entre l'extrême droite autrichienne, on verra pour ce qui est de l'Europe, mais autrichienne déjà et le pouvoir russe?
Eh bien, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ces liens sont déjà très anciens. Hein. Ils remontent... les Russes ont commencé à s'intéresser au Front National au début des années 2000, déjà, ou même avant, d'ailleurs, dans les années 90. Ce sont d'abord les eurasistes, hein, les gens autour de Douguin, qui ont fait connaître les partis d'extrême droite européens au public russe et qui ont surtout, je dirais, révélé leur potentiel de destruction de l'Union européenne, parce que ce qui intéresse d'abord la Russie dans les partis d'extrême droite, c'est qu'ils sont anti-européens et anti-américains. Donc ça a été la cause première de cet intérêt. De cet intérêt russe pour ces partis.
Et ils avaient en Autriche un allié particulièrement solide, c'est pas tout à fait un hasard. Oui, si le premier voyage de Vladimir Poutine après le rattachement de la Crimée à la Russie, le premier voyage en Europe se fait en Autriche précisément.
Exactement.
Au cœur de l'Europe.
Et l'Autriche est depuis, et historiquement déjà à l'époque soviétique, elle était très susceptible de tomber sous l'influence de Moscou. Il y a aussi un background historique dans cette attitude de l'Autriche.
C'est-à-dire
L'Autriche était neutre et donc elle intéressait beaucoup les soviétiques parce qu'ils obtenaient à l'Autriche, ils obtenaient par exemple des technologies qui étaient interdites d'exportation par le COCOM. Enfin, c'était très utile d'avoir un pays neutre au cœur de l'Europe qui leur permettait toutes sortes d'avantages. Et qui leur permettait aussi de développer certaines idées. Il y a eu des instituts en Autriche qui étaient très proches, semble-t-il, du KGB, qui leur ont permis de se familiariser avec le capitalisme, le fonctionnement de l'économie de marché, etc. Donc il y a quelque chose d'ancien, aussi une tradition, je dirais, qui peut-être explique un peu cette propension en Autriche, cette attitude, j'allais dire philo-soviétique, pro-russe hein, aussi, qui est très forte.
Et est-ce que vous pensez que cette affaire, qu'on appelle l'Ibizagate, pourrait modifier justement la stratégie de Moscou vis-à-vis de l'Union européenne, puisqu'on voit bien que l'Autriche a peut-être une place à part? Est-ce qu'il va falloir qu'on repense les choses et d'une certaine manière trouver d'autres points de relais pour la diplomatie russe?
Je ne crois pas qu'ils changent, parce que ces méthodes-là sont efficaces. De temps en temps, il y a un problème, hein, il y a un échec quelque part, mais les choses sont connues, comme pour le cas de la campagne électorale de Trump, mais on ne voit que la pointe de l'iceberg, en fait, hein, et ils n'ont guère de raison de changer de méthode, parce que encore une fois, elles sont assez efficaces.
La pointe de l'iceberg, dites-vous, François Staub, on sait que certains partis d'extrême droite européens sont particulièrement proches du pouvoir russe, on le dit avec l'Autriche, mais on se souvient par exemple que Poutine avait reçu Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle, que le Front National avait même reçu des financements d'une banque russe. Mais est-ce que cette influence du pouvoir russe, cette diplomatie corruptive, je mets des guillemets, mais c'est bien de ça dont il est question, se cantonne aux partis d'extrême droite, ou est-ce que ça va au-delà?
Ça va bien au-delà. D'abord, certains partis d'extrême gauche sont aussi pro-russes, hein, et intéressent beaucoup Moscou. On a vu aussi aux affaires des faux comptes Facebook qui étaient créés aux États-Unis. Ils s'appuyaient à la fois sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche. Hein. Et souvent, c'était les mêmes hackers qui faisaient appel au public d'extrême droite ou au public d'extrême gauche. Donc leur stratégie, c'est une stratégie du chaos. C'est pas spécialement, c'est bien sûr l'extrême droite les intéresse pour les raisons que j'ai dites, parce qu'elle est anti-européenne et anti-américaine, mais je dirais qu'il y a plus, il y a un objectif plus important encore, c'est de discréditer la démocratie et rendre le fonctionnement de la démocratie impossible, tout simplement, hein, de créer des atmosphères de guerre civile, hein, d'attiser les atmosphères de guerre civile dans les pays occidentaux.
C'est déstabiliser l'Europe, on l'entend bien, François Staub, avec peut-être cet objectif d'aboutir à l'effondrement de l'Union européenne. Peut-être que c'est un des rêves de Vladimir Poutine, mais il y a aussi peut-être des choses beaucoup plus pragmatiques. C'est donner une bonne image de la Russie, c'est peut-être militer, prôner en tout cas la fin des sanctions à l'égard de la Russie. Ce sont aussi toutes ces choses-là.
Oui,
c'est la raison pour laquelle on déploie cette diplomatie. C'est pas seulement pour briser à terme l'Union européenne.
Oui, il y a, je dirais, des objectifs à court terme. C'est une stratégie d'influence et la corruption n'est qu'un volet de cette stratégie d'influence. Il y a beaucoup d'autres volets. Mais donc il y a une stratégie d'influence qui vise les élites et qui n'est pas la même que celle qui vise les masses. Mmh. Alors ce dont je parlais tout à l'heure, c'était justement la stratégie d'influence qui visait les masses. Quand il s'agit de viser les élites, là, les objectifs sont plus immédiats. C'est effectivement la levée des sanctions, l'adoption d'une politique plus hostile à l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui est le point très sensible pour la diplomatie russe. Vous avez toute une série d'objectifs à plus court terme. Et je crois que c'est ce qui rend si difficile la lecture, la compréhension de l'activité russe à l'étranger, c'est les différentes couches, les différents sédiments de cette activité. Mmh. Et la coordination entre ces différents sédiments.
Mmh. On reviendra justement sur cette coordination, mais jusqu'où ces responsables européens sont-ils soumis à Moscou? Il y a quelques jours, le quotidien allemand Spiegel a publié une enquête très intéressante sur un député allemand qui s'appelle Markus Fronheimer, qui est un élu de l'AfD, Alternative for Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, qui est un parti d'extrême droite. Ce député allemand est soutenu par le régime russe. Il est décrit dans un document adressé à des membres de l'administration présidentielle russe comme un député totalement sous contrôle. C'est ça l'expression, totalement sous contrôle. Ça veut dire quoi, totalement sous contrôle? Jusqu'où est-ce qu'il est sous contrôle?
Dans le jargon russe, totalement sous contrôle, ça veut dire probablement qu'ils ont des dossiers compromettants sur lui. C'est-à-dire qu'il va pas être
des compromates.
Du compromat, oui, c'est ce qu'on appelle compromat en russe. Donc ça, c'est très important, hein, c'est les leviers qui sont utilisés pour contrôler ou pour placer sous influence les élites. Alors il y a évidemment différents degrés. Il y a un levier idéologique, hein, ceux qui s'imaginent que la Russie est la championne des valeurs traditionnelles, etc., qui sont simplement philo-russes, amis du Kremlin par affinité idéologique, ça compte, hein, ça compte. Et puis, il y a des motivations matérielles, donc il y a ceux qui sont achetés, c'est beaucoup mieux. Et puis, il y a ceux sur lesquels on a des dossiers. Voilà. Et en général, c'est lié. D'ailleurs, une fois qu'on a acheté quelqu'un, on a aussi un dossier. Et ceux-là sont considérés comme fiables. Poutine considère comme fiable, comme un ami, que celui sur lequel il a barre. Hein, autrement, il n'est pas fiable. Un responsable occidental qui ne prend pas d'argent russe ne peut pas être fiable.
Après,
ne peut pas être un partenaire fiable.
On sait aussi adapter, François Stomme, les modalités de l'ingérence russe. Je vous cite justement extrait de votre livre « Comprendre le poutinisme ». Vous dites en bon KGBiste « Poutine se fait caméléon à volonté, épousant les inclinations de ses interlocuteurs, religieux avec George W. Bush, grivois avec Silvio Berlusconi, gaulliste avec les Français, pragmatique et businessman avec les Allemands. » On sait s'adapter.
Exactement. Poutine est avant tout un agent recruteur. Et il voit la politique étrangère comme des opérations spéciales, comme une suite d'opérations spéciales visant à recruter les élites des pays étrangers. Surtout, bien sûr, l'Europe est une priorité dans cette politique.
Alors, François Stomme, faut parler des États-Unis. On parle énormément de l'ingérence russe aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Mais rassurez-nous, cette ingérence russe aux États-Unis, elle existait avant l'arrivée de Trump.
Oui, bien entendu.
Il y a eu des
tentatives
dans l'histoire, des tentatives de corrompre des responsables américains.
Bien sûr, et déjà la réélection de Reagan, Andropov avait déployé de grands efforts pour empêcher l'élection de Reagan et sa réélection. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les moyens dont dispose le Kremlin sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Pour deux raisons. La première, c'est que le Kremlin a de colossales ressources financières, hein, tous les pétrodollars qu'il accumule et dont il ne distribue à sa population que des miettes de plus en plus pitoyables. Donc il a de colossales ressources financières qu'il peut canaliser sur ses cibles.
Mais bon,
ça, c'est le premier point.
Je vous en prie.
Et le deuxième point, ce sont les réseaux sociaux. C'est l'existence des réseaux sociaux dont ils ont compris depuis 2011 à peu près comment on peut les manipuler et donc influencer l'opinion à l'étranger de façon infiniment plus efficace qu'à l'époque soviétique, l'époque du Comintern. Hein.
Dans le cas de Donald Trump, il n'a pas besoin d'argent cet homme-là, il est milliardaire. Vous nous disiez tout à l'heure, il y a deux façons finalement de faire d'un responsable politique étranger un allié, soit l'argent, soit le compromat. Trump n'a pas besoin d'argent. Alors ça veut dire qu'il est tenu par un compromat?
Si, il paraît qu'il a eu beaucoup besoin d'argent, hein, parce qu'il a connu des banqueroutes. Et
il a été renfloué par des banques russes.
Il a été renfloué par de l'argent russe et de l'argent... d'Asie centrale ou d'oligarques d'Asie centrale, si je me souviens bien. Donc, ce qui intéresse, ce qui intéresse le Kremlin dans la personnalité de Trump, c'est justement qu'il est un homme d'affaires et donc qu'il raisonne comme un businessman. Donc, il ne comprend pas la politique au sens large. Et c'est ça qui les intéresse. C'est une politique qui existait déjà à l'époque de Lénine, d'ailleurs. Dès 1918, Lénine avait compris qu'il pouvait manipuler les hommes d'affaires. Il a commencé à le faire pour l'Allemagne en 1918, parce qu'il comptait s'appuyer sur les milieux d'affaires allemands pour stopper les initiatives des militaires allemands Hindenburg et Ludendorff, qui voulait renverser les bolcheviks. Hein, au début 1918, les militaires allemands faisaient du pressing à Berlin pour renverser. Ils voulaient renverser les bolcheviks parce qu'ils avaient compris les menaces de subversion qu'ils représentaient. Et les bolcheviks ont pallié cette menace en s'appuyant sur les milieux d'affaires allemands, ce qui a permis finalement, ce qui a emporté la décision et a poussé l'Allemagne à soutenir les bolcheviks jusqu'à la fin, jusqu'à la défaite. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'était très efficace. Et à partir de là, les bolcheviks ont compris que les capitalistes étaient manipulables. Justement, il suffisait de leur proposer de gros contrats, ils étaient manipulables, et une fois qu'ils étaient qu'ils avaient mordu à l'hameçon de ces gros contrats, si on choisissait des capitalistes bien placés, et dans leur esprit marxiste, les capitalistes contrôlaient les autorités politiques, donc il suffisait de cibler un certain nombre de capitalistes de façon à pouvoir influencer les décideurs politiques. C'est la politique qu'ils ont menée depuis 1918. En 1941, quand l'Allemagne a surpris Staline, a attaqué Staline était stupéfait. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était persuadé que les milieux d'affaires allemands étaient intéressés dans la coopération avec l'URSS et qu'ils bloqueraient toute velléité des militaires allemands, exactement ce qui s'était passé en 1918. Et alors, je dirais que cette perception, elle est passée avec armes et bagages dans la vision des choses des dirigeants du KGB, du FSB ou du SVR, post-soviétique. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il leur suffit de contrôler un certain nombre d'hommes d'affaires bien placés pour pouvoir en tout cas bloquer toute initiative anti-Kremlin du côté des démocraties occidentales. Et alors Trump était un personnage très intéressant pour eux dans cette philosophie-là.
Pour déployer cette diplomatie corruptive, il faut des agents corrupteurs. Est-ce que ces réseaux-là sont les mêmes que les réseaux de corruption à l'intérieur de la Russie ?
Oui, ce sont les mêmes, justement.
Il n'y a pas d'agents corrupteurs dédiés
non,
à, la,
ce sont
à la politique
des,
étrangère russe.
Ce sont les oligarques du Kremlin auxquels Poutine permet de faire de l'argent, mais à condition qu'ils soient au service de l'État russe quand il le demande. tout simplement. Donc, il leur dit, voilà, vous pouvez détourner tant d'argent, mais placer, avoir vos fonds offshore, etc. Mais attention, vous devez vous rendre utile. Et alors, est-ce que c'est très centralisé ou est-ce qu'il y a une initiative de certains oligarques, surtout quand ils se sentent menacés, hein, parce que en ce moment, ils se sentent de plus en plus menacés depuis le troisième mandat de Poutine. Donc, ils font du zèle dans le patriotisme, dans l'orthodoxie, etc., pour se dédouaner. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives de leur côté pour se faire bien voir et échapper à des à des poursuites? C'est possible, hein, parce que le chantage, il marche à l'étranger,
il marche aussi à
l'intérieur du pays. C'est un système de chantage universel.
Si on reprend un tout petit peu les choses, François Stomme, et qu'on revient au début de l'ère Poutine, si je puis dire, est-ce que vous diriez que Poutine, l'arrivée de Poutine va constituer une rupture dans la manière dont on déploie la diplomatie, et en particulier la diplomatie corruptive, je l'appelle comme ça, ou est-ce qu'au fond on est dans la lignée de ce qui avait cours juste avant, c'est-à-dire pendant la période Yeltsin ?
Non, pendant la période Yeltsin, il manquait deux choses. Il manquait d'abord une direction ferme de la politique étrangère, parce que pendant la période Yeltsin, chacun tirait à U et à Dia. Les oligarques avaient leur politique, les ministres avaient la leur, la Douma avait la sienne. Donc la politique étrangère n'était pas intégrée. Elle est devenue intégrée quand à partir du moment où le KGB a mis la main dessus, à partir de Primakov. Primakov est déjà un homme du KGB qui prend le contrôle de la politique étrangère en 1996. Donc là, il y a une première condition qui commence à se réaliser, c'est un début de centralisation qui se met en place, qui se met en place encore sous Yeltsin. Et puis le deuxième élément, c'est que à l'époque de Yeltsin, la Russie était fauchée et donc elle n'avait pas les moyens. La corruption existait beaucoup à l'intérieur, mais elle n'avait pas beaucoup de moyens de projection de ces flux financiers corrupteurs à l'étranger, à l'extérieur de ses frontières.
Alors, évidemment, les choses vont changer dans les années 2000, on va avoir de plus en plus de moyens, mais visiblement, on va aussi encourager cette corruption. Vous expliquez qu'avec l'arrivée de Poutine, non seulement la corruption des fonctionnaires augmente, vous dites le revenu annuel global rapporté par la corruption aux fonctionnaires a été de 33,5 milliards de dollars en 2001 et de 316 milliards de dollars en 2005, mais qu'en plus, cette corruption est encouragée en haut lieu. Alors là, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on encourage la corruption et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on cherche à faire?
Parce que c'est un instrument de contrôle, la corruption. C'est le compromat. Quelqu'un qui n'est pas corrompu, il va pas atteindre un poste élevé parce qu'on n'a pas barre sur lui, tout simplement. Pour être propulsé dans la hiérarchie de l'appareil d'État, il faut que le FSB ait des dossiers sur ou l'administration présidentielle, c'est l'administration présidentielle qui a ses dossiers sur les intéressés. Donc quelqu'un,
le FSB, le service de sécurité fédérale, voilà, hein, je rappelle,
voilà,
pour les auditeurs.
Voilà. Et donc s'il y a pas de dossier compromettant, on ne fait pas carrière.
Hein. Alors,
c'est une garantie.
On comprend très bien le mécanisme, François Stomme. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment, Vladimir Poutine va lancer une vaste campagne de corruption, et notamment au début des années 2000, 2012, 2013. Là, il va y avoir des choses très importantes, des mouvements de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui se passe puisqu'on l'encourage et puisque ça permet effectivement de faire monter ses propres hommes et au fond de quadriller le pouvoir et d'asseoir son pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on lance des campagnes de corruption contre la corruption?
Anticorruption, c'est pour se débarrasser de personnages. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la volonté du Kremlin de faire peur aux élites. Ça, c'est un mécanisme très soviétique. Les élites ne sont considérées comme fiables que si elles ont peur du pouvoir politique, si elles sont totalement dociles. Donc, de temps en temps, il faut une petite piqûre de rappel. On arrête un ministre à grand fracas.
On met en place une loi aussi, par exemple, qui visait à interdire aux fonctionnaires d'avoir des comptes en banque à l'étranger.
Voilà. Oui. Et tout ça permet, évidemment, et ces lois ne sont pas forcément appliquées, mais ça permet, encore une fois, d'avoir barre sur les gens et de discipliner les élites. En fait, Poutine était extrêmement furieux en fin 2011 parce qu'il a vu qu'une partie des élites soutenait un deuxième mandat de Medvedev. Hein, il ne voulait pas qu'il revienne au pouvoir. Donc il y a eu une scission au sein des élites, ce qui pour Poutine est absolument affreux. Et il a lancé sa campagne de nationalisation des élites à partir de 2012 pour répondre à cette menace qu'il percevait d'une scission au sein des élites, d'un relâchement de sa poigne sur ces élites. Donc ça, c'est une des raisons de ces campagnes anticorruption qui évidemment n'aboutissent absolument pas à un recul de la corruption. Parce que s'il voulait vraiment faire reculer la corruption, il rendrait la liberté de la presse et il donnerait l'indépendance aux tribunaux. C'est les deux conditions absolument indispensables pour lutter contre la corruption.
Vous écrivez dans votre livre « Comprendre le poutinisme », je rappelle le titre, « On voit ressurgir de vieux réflexes soviétiques, l'incertitude des oligarques quant aux intentions du leader national, les pousse dans la surenchère patriotique la plus échevelée, quotidiennement répercutée à la télévision dans l'espoir que ces démonstrations de loyalisme leur éviteront l'arrestation et la spoliation. » Donc on voit bien qu'à partir de là, évidemment, les oligarques vont se montrer particulièrement zélés et donc déployer à tout va énormément de moyens pour enclencher, accélérer en tout cas cette diplomatie corruptive. Mais quand on regarde, François Stom, les choses, les différents agents, acteurs de cette diplomatie russe, alors on en trouve beaucoup, on en a évoqué, donc il y a les oligarques, il y a Vladimir Poutine, il y a le FSB, vous en parliez à l'instant, le service fédéral de sécurité.
Les Siloviki, comme on les appelle, c'est-à-dire les fonctionnaires des ministères de force, les services de sécurité, l'armée, etc.
Alors justement, comment se négocie le pouvoir entre tous ces acteurs? Est-ce que c'est une structure pyramidale pure au sommet de laquelle se situerait le président lui-même et qui déciderait tout et au fond tous les autres s'exécutent? Ou est-ce qu'on a un rapport une négociation au fond du pouvoir? Parce que la question qu'il y a derrière, c'est aussi si cette diplomatie russe, elle est parfaitement monolithique ou derrière, est-ce qu'il peut y avoir aussi des dissensions? Comment se jouent les jeux de pouvoir? Finalement, qui décide de la diplomatie russe, de la politique étrangère russe?
La question. Là, je vous posais une excellente question. Je pense que Poutine, jusqu'à assez récemment, contrôlait très bien, était au sommet de la pyramide. Sa fonction, c'était une fonction d'arbitrage entre les différents clans. Il y a différents clans au Kremlin qui sont souvent un couteau tiré, et Poutine arbitrait entre les différents clans. Depuis quelques années, on a quand même le sentiment que, peut-être parce que Poutine prend de l'âge, que sa poigne sur les élites s'est un petit peu desserrée. En tout cas, on a l'impression, avec toutes les arrestations, il y a beaucoup d'arrestations et de purges en ce moment, on a l'impression que chaque clan essaye, qu'il y a une guerre, vraiment une guerre intestine entre les clans, et chacun essaye d'avancer ses pions pour son propre compte.
Ce sont des clans ou ce sont des mouvements qui sont structurés par certaines idéologies, vous disiez tout à l'heure?
Non, ce sont des clans. C'est essentiellement des... Alors vous avez les Siloviki, hein, les hommes des... On distingue souvent les libéraux systémiques et les Siloviki dans le groupe dirigeant du Kremlin. Donc les libéraux systémiques sont les libéraux entre guillemets, notamment dans le domaine économique, sont critiques de certaines initiatives des Siloviki, des gens comme Koudrine. Et puis vous avez les Siloviki, dont le poids n'a cessé d'augmenter depuis l'annexion de la Crimée. Les Siloviki sur lesquels Poutine s'appuie. Donc ce clan, mais le clan des Siloviki n'est pas homogène non plus. Vous avez des guerres intestines même parmi ces Siloviki. Donc la situation est extrêmement confuse, comme à l'époque soviétique. Hein. C'est un peu une boîte noire et on voit où les bulldogs sous le tapis, comme disait Churchill. On en est toujours là, hein, des luttes de bulldogs sous le tapis. On voit des touffes de poils qui sortent.
Non, mais donc ça veut dire que cette idée qu'on se fait parfois, nous, vu d'Europe, d'une Russie parfaitement contrôlée par un seul maître, à savoir Vladimir Poutine, n'est pas tout à fait exacte.
Non, ça, je pense que aujourd'hui, c'est pas tout à fait. Ceci dit, Poutine a toujours le dernier mot. S'il intervient, il aura le dernier mot.
Oui, puisque c'est l'arbitre. Mais
il
enfin...
a toujours cette fonction d'arbitre et il a toujours une autorité incontestée. Simplement, comme les difficultés économiques se multiplient, les parts du gâteau à se partager. Ça me nuise entre les
tensions
entre les oligarques
jour.
Et les tensions, les rivalités sont beaucoup plus âpres justement pour obtenir les parts du butin.
Vous parliez de gâteau, corruption, la grande tentation, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, corruption internationale des dirigeants à la solde de puissances étrangères. On est avec François Stomme, auteur notamment de Comprendre le poutinisme.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va faire un tout petit pas de côté pour aller du côté de l'Azerbaïdjan. En mai 2018, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, composée de parlementaires désignés par des parlements nationaux, des États membres du Conseil de l'Europe, qui regroupe, je le rappelle, 47 pays, dont l'Azerbaïdjan, avait privé de certains de leurs droits quatre parlementaires mis en cause dans un rapport d'enquête sur des allégations de corruption au profit de l'Azerbaïdjan. Bonjour Anastasia Kirilenko.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste indépendante et puis co-auteur avec Nicolas Tonev d'un film sur Poutine, justement, Poutine le parrain, qui avait été diffusé sur France 2. Dans les conclusions que j'évoquais de ce rapport à l'instant, le groupe d'enquête indépendant a fait état d'un fort soupçon de corruption, je cite la formule, au profit de l'Azerbaïdjan, avec des élus qui se seraient vus offrir du caviar, des tapis, des hôtels de luxe et même des rémunérations pour des activités de lobbying. Il y avait notamment Pedro Agramon, qui était à l'époque le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a été poussé à la démission en octobre 2017, après un voyage un peu controversé du côté de Damas dans l'avion privé d'un responsable russe et puis sa rencontre avec le président syrien Bachar el-Assad sans en avertir le Conseil de l'Europe. Mais est-ce que ces faits sont marginaux du côté de l'Azerbaïdjan, ou est-ce que finalement on est là en présence d'un pays qui, un peu comme en Russie, est un habitué de la diplomatie corruptive? Je reprends la formule qu'on utilise depuis tout à l'heure. Anastasia Kirilenko.
Oui, bien sûr, il y a un soupçon que ça n'a pas commencé hier. Vous avez mentionné plusieurs hommes politiques, mais si on parle de l'Air France, il y a par exemple Thierry Mariani, qui était directeur d'un groupe d'amitié entre la France et l'Azerbaïdjan au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est lui précisément qui était membre d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui était censée voir qu'est-ce que c'est la diplomatie du caviar. Et sans surprise, il y avait quand même un conflit d'intérêts. Sans surprise, les conclusions n'ont pas été, disons, très fortes. Il y a quand même des enquêtes de justice ouvertes, notamment en Italie, à l'encontre de l'homme politique Luca Volonté. Lui, il est soupçonné, il était directeur d'un groupe parlementaire à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et il est soupçonné d'avoir banni le rapport, d'avoir entravé l'adoption du rapport sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Il y en a quand même plusieurs dizaines. Il y a des réfugiés politiques d'Azerbaïdjan en Europe. Il y a des journalistes en prison ou même tués. Et voilà, en même temps, sous Luca Volonté, il y avait des perquisitions dans les bureaux de dos de ces ONG qui ont reçu plusieurs centaines de milliers d'euros.
Alors s'agissant de la France, vous évoquiez Thierry Mariani, ancien membre de Les Républicains et passé au Rassemblement National. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais en novembre dernier, le journal Marianne a publié une enquête sur un député La République En Marche, cette fois, Pierre-Alain Raffan, élu de la 10e circonscription de l'Essonne. Et après avoir pris la tête du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan, il a proposé à cette ancienne république soviétique donc de financer une association qui aurait été financée par Bakou à hauteur de 2,8 millions d'euros par an. C'est ce que révèle le journal. Pierre-Alain Raffan, il est visiblement toujours à la tête de ce groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Et puis par ailleurs, il y a fait un déplacement payé évidemment par le régime de Baïkou, où il a emmené ses assistants parlementaires, ce qui visiblement ne semble pas être l'usage à l'Assemblée nationale. Que vous inspire cette démarche? Est-ce qu'on est dans un travail de coopération d'État à État tout à fait classique, ou est-ce que ça relève d'un travail classique, j'allais dire, mais d'influence d'un régime autoritaire, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, qui cherche à s'attirer les bonnes grâces de représentants politiques qui, en échange, œuvreront pour redorer son blason?
Je dirais tout simplement que ce serait difficile effectivement de traduire à quelqu'un injustice, parce que déjà les juristes, les avocats de ces personnes disent que, écoutez, c'était une ONG, il y a aussi une ONG en Azerbaïdjan qui, d'accord, il y avait une coopération, voilà, il y avait des paiements pour le service, pour payer des salaires, etc. Mais en Azerbaïdjan, il n'y a pas d'ONG libre. Il y a des enquêtes journalistiques, notamment du consortium international d'enquête, aussi, qui est très convaincant qu'il y avait plusieurs transactions suspectes. Ça veut dire que parmi les personnes que vous avez mentionnées, il y a par exemple une vingtaine de transferts qui résultent à quelques millions d'euros. Et tout ça, par exemple, pour une ONG. Mais ça sera une longue bataille. Notamment, il y a aussi un cas en Allemagne où il y a un homme politique qui a reçu plusieurs centaines de milliers d'euros dans le cadre de la diplomatie de caviar, et il a déjà déclaré qu'il avait quitté ses fonctions. Ça veut dire avant il a été élu, et pendant 20 ans il était à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Une fois quitté ses fonctions, il fonde une ONG qui reçoit ces centaines de milliers d'euros. Et donc, il n'y a pas de problème, même si c'est clair qu'il s'agit du lobby. Enfin, je veux dire, c'est clair pour la presse, il y a un fort soupçon. Ça sera très difficile à prouver. La seule chose qui m'encourage, en Allemagne, il y a une loi adoptée, mais ça, c'était à cause de l'ancien chancelier Schröder, qui maintenant, il a un travail en Russie, il est chef du conseil d'administration de Rosneft, l'entreprise du pétrole russe. Et donc il y a quand même une loi adoptée qui impose un certain délai sanitaire. Si vous voulez, un fonctionnaire, quand il a quitté ses fonctions, il doit attendre jusqu'à un an avant de passer au secteur privé. Voilà, c'est pas encore pour les ONG, je sais pas, et je suis sûre qu'il y a encore des possibilités juridique pour que ce genre de choses soit possible, et très difficilement probable qu'il s'agit de la corruption.
Anastasia Kirilenko, est-ce que les méthodes de corruption qui sont utilisées par l'Azerbaïdjan sont exactement les mêmes que celles qu'on utilise en Russie, ou est-ce qu'il y a des spécificités?
Ce qui est important à savoir, c'est que dans le cadre de la diplomatie du caviar, il s'agit aussi de l'argent russe, parce que des sociétés écrans ont reçu 29 millions d'euros de Rosabaron Export. C'est une société d'État russe présidée par un proche de Poutine, Sergei Chemezov. Et cette société n'a donné aucune explication pourquoi elle finançait trois entreprises écrans basé en Angleterre, qui ensuite ont été financés d'Azerbaïdjan et de Russie, et qui transmettaient de l'argent aux élus, notamment à l'Assemblée parlementaire. Donc déjà, il y a un soupçon très concret qu'Azerbaïdjan a été, comme on dit, un proxy, un écran pour promouvoir les intérêts russes. Et sachant que les personnes impliquées, par exemple Thierry Mariani, ou encore Pedro Agramont, il y a à la fois un lien avec l'Azerbaïdjan, la Russie et Bachar al-Assad. Donc, par exemple, Mariani, il ne cache pas son lobby en ce qui concerne la reconnaissance de la Crimée comme une partie de la Russie. Il organise souvent des voyages à la fois, comme j'ai dit, il est connu comme un ami d'Azerbaïdjan, même quand officiellement il n'était plus président de ce groupe d'amitié entre la France et l'Azerbaïdjan. Il donnait des interviews, il accompagnait François Hollande pour ses voyages en Azerbaïdjan, etc. Et donc, il y a un soupçon que tout ça, ça travaille en quelque sorte ensemble.
C'est intéressant, Françoise Thom, parce qu'au fond, on se rend compte qu'on voit bien là comment la Russie utilise un pays tiers, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, pour déployer sa diplomatie corruptive. On comprend bien que l'Azerbaïdjan défend évidemment ses propres intérêts, mais aussi les intérêts de la Russie avec ses fonds qui sont versés à Bakou. Au fond, exactement comme dans l'impérialisme soviétique.
Oui, il y a une internationale des oligarques. Ils font la plupart de ces oligarques dans les pays de la CEI font leur argent grâce à la Russie et donc ils agissent conformément aux intérêts russes, même s'ils sont kazakhs ou azerbaïdjanais, ils font leur argent et c'est d'ailleurs le principal levier de Moscou dans ces républiques. Ce sont ces gens ces oligarques proches du Kremlin qui... il faut voir que la Russie, elle raisonne comme en termes d'empire. Et pour un empire, l'importance, c'est de contrôler les élites des pays avoisinants. Et la stratégie, la politique étrangère russe, c'est une politique de contrôle des élites, des pays avoisinants et même des pays un peu plus lointains.
Si on peut. Anastasia Kirilenko, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et co-auteur avec Nicolas Tonev de ce film Poutine le parrain. On va prendre la direction de l'Australie.
L'Australie ferme ses portes à l'un des hommes d'affaires chinois les plus riches et les plus influents, soupçonné par les autorités australiennes d'exercer trop d'influence ici en Australie. Le promoteur immobilier chinois Wang Zhangmo, qui avait élu domicile à Sydney, a toujours nié les allégations selon lesquelles il cherchait à faire pression sur les hommes politiques en leur versant de généreux dons. Mais il est maintenant interdit de territoire en Australie et ne peut revenir dans le pays.
Voilà, en février dernier, l'Australie refusait d'accorder la nationalité australienne à ce milliardaire chinois Wang Zhangmo et même son visa d'entrée sur l'île, alors qu'il y avait depuis plusieurs années ses habitudes. Ce promoteur immobilier avait en effet généreusement arrosé plusieurs politiciens qui ont pris ensuite des positions pro-chinoises. On voit que la Russie n'est pas la seule à faire de la diplomatie corruptive, mais que la Chine sait bien faire aussi. Et au fond, cet homme-là est devenu un peu le symbole de l'ingérence de Pékin à Canberra. Son cas, il est particulièrement symptomatique de cette prise de conscience par l'Australie de cette volonté d'ingérence des autorités chinoises. Bonjour Paul Charron.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint du domaine pensée stratégique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et un spécialiste de la Chine. Wang Zhangmo, c'est un cas à part où finalement il incarne une manière devenue assez classique là aussi d'opérer des autorités chinoises qui utiliseraient des hommes d'affaires pour défendre ses intérêts en Australie?
Non, c'est hélas pas le seul cas, c'est pas un cas isolé. Les autorités australiennes et notamment le service de sécurité intérieure, l'ASIO, a publié plusieurs rapports sur ces questions. Donc Wang Zhangmo, c'est sans doute la figure la plus en vue aujourd'hui. Mais il y a aussi le cas d'un autre milliardaire, Zhou Chaqing, qui lui a la nationalité australienne, donc qui est un cas encore plus complexe à gérer pour les autorités. Mais alors vous l'avez appelé diplomatie corruptive depuis le début de l'émission, c'est une diplomatie d'influence, il s'agit d'opérations d'influence, parfois très agressives, mais la spécificité en l'espèce dans le cas australien, c'est qu'il ne s'agit pas de corruption au sens strict, puisque la loi australienne, au moins au moment des faits, autorisait les dons vers les partis. Donc, tout ce que Wang Zhangmo a pu faire sur le sol australien était parfaitement légal.
Même si les choses ont changé, on va y revenir, Paul Charron. Alors, ça, c'est du côté chinois, même si vous avez raison de nous le rappeler. Par exemple, Zhou Chaqing, c'est un promoteur immobilier qui est accusé d'avoir versé plusieurs millions de dollars aux principales formations politiques. Lui avait la nationalité australienne. Mais si on regarde du côté des politiciens australiens qui ont succombé aux sirènes de Pékin, on a par exemple Sam Dastyari, qui était un sénateur qui a été forcé à la démission en 2017. C'est l'un des responsables justement touchés par le scandale lié à Wang Zhangmo, même si on peut pas parler de corruption, vous nous le disiez. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche très concrètement? Et est-ce qu'une fois encore, on est là dans un cas tout à fait à part, tout à fait marginal, ou est-ce que ce sont des choses qui sont assez répandues?
Alors c'est pas du tout un cas marginal, c'est effectivement des choses très répandues. C'est un seul des leviers que la Chine utilise d'ailleurs pour faire pression, pour pénétrer la société australienne. Il faut savoir que les Australiens se voient d'ailleurs comme un petit peu comme le patient zéro en matière d'influence chinoise. Alors, ce qui est peut-être un peu exagéré, parce que les Taïwanais sont sans doute bien plus avancés en matière d'expérience d'influence chinoise que les Australiens. Mais malgré tout, ce qui est intéressant et qu'il faut comprendre, hein, c'est que ce qui se passe en Australie aujourd'hui est un peu notre avenir. Et on verra sans doute ces pratiques appliquées ailleurs que dans la périphérie immédiate de la Chine. Alors,
Ça c'est important. On envoie déjà des signaux ?
Oui, tout à fait. Alors, pas forcément des cas de corruption, mais des cas d'influence, notamment par l'intermédiaire. Et ça, c'est une spécificité de la Chine par rapport au cas russe, par exemple. C'est que la Chine passe souvent par l'intermédiaire des communautés chinoises, qu'elles soient d'origine chinoise, ou donc avec la nationalité du pays d'accueil, ou qu'il s'agisse de populations temporairement présentes sur le sol, par exemple les étudiants chinois. Et ça, c'est très important, mais on présente souvent cette communauté chinoise comme une espèce de cinquième colonne ou un vecteur de l'influence de la Chine, mais en fait la Chine la voit aussi comme une menace pour son propre régime. Il faut jamais oublier que malgré tout dans la politique d'influence de la Chine à l'étranger, il y a une volonté d'expansion, d'assurer la renaissance de la Chine que Xi Jinping met en avant, etc. Mais il y a aussi une volonté de contrôler les communautés chinoises à l'étranger parce qu'elles disposent de ce capital culturel qui leur permettrait d'introduire des idées délétères en Chine même et de favoriser la progression alors de la culture occidentale, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, etc.
Raison pour laquelle, par exemple, du côté des autorités chinoises, on essaye d'asseoir son influence à travers les médias dans les pays en question. Par exemple, du côté de l'Australie, la quasi-intégralité des médias en langue chinoise sont tenus par les autorités de Pékin.
C'est ça. Alors, tenus par différents moyens. Donc, effectivement, les chercheurs et les autorités australiennes estiment à peu près à 95% les médias contrôlés d'une manière ou d'une autre par la Chine, donc médias en langue chinoise, hein, j'entends. Donc soit par des prises de possession du capital de ces médias, soit par des pressions qui peuvent être exercées sur certains journalistes, ou alors des pressions exercées sur les entreprises qui payent pour de la publicité dans ces médias. Donc si un journal, un quotidien en langue chinoise se voit privé de toute recette publicitaire, il périclite assez rapidement. Et donc, on n'est pas obligé de faire pression directement sur les journalistes ou les rédactions, mais on peut s'attaquer.
C'est une pression économique, qui fonctionne aussi très bien. Paul Charron, si on revient sur cette histoire de... Vous nous expliquiez tout à l'heure que c'était pas de la diplomatie corruptive, parce que précisément, financer des partis politiques avec des fronts étrangers, c'était possible. Je dis c'était parce qu'il y a eu une réaction de Canberra. Désormais, ça ne l'est plus. Donc, on réagit.
Ça ne l'est plus, mais en même temps, si on regarde la loi dans le détail, elle n'empêcherait pas ou elle ne rendrait pas illégale les activités menées par Huang Xiangmo et surtout Zhou Jiaqun, qui, lui, a la nationalité australienne. Donc la loi est vraisemblablement imparfaite. En tout cas, comme vous le soulignez tout à l'heure, elle dénote une prise de conscience des autorités australiennes du caractère néfaste de cette influence chinoise. Donc dans le cas qui s'illustre assez de manière évidente, hein, vous avez mentionné tout à l'heure le cas de Sam Dastyari, donc ce sénateur australien, qui avait pris position contre le parti travailliste, qui avait manifesté son désaccord face à l'interprétation chinoise en mer de Chine, et l'Australie s'est déclarée favorable aux opérations de liberté de navigation en mer de Chine. Sam Dastyari, à la demande de Huang Xiangmo, et ça l'ASIO, donc le service de sécurité, a pu l'établir, avait pris une position contraire. Et c'est un peu ce qui a précipité d'ailleurs sa chute au sein du parti.
Paul Charron, comment est-ce qu'on réagit du côté de Pékin face à la riposte de Canberra ? Alors, j'entendais parfaitement votre propos. Hein. Vous dites qu'en réalité, même si la loi a changé, ces financements ne seraient pas complètement empêchés, puisque dans le cas de Zhou Jiaqun, c'est un Australien. Mais comment est-ce qu'on réagit à cette cette... Parce que on voit bien que du côté de Canberra, on sent la menace. Est-ce que du côté de Pékin, ça inquiète? Est-ce qu'on essaye de rassurer son partenaire? Faut pas oublier que la Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Australie. Donc, comment est-ce qu'on réagit aux mesures de Canberra du côté de Pékin?
Alors du côté de Pékin, alors c'est difficile de savoir ce que pense l'élite du régime, vous vous en doutez, c'est une véritable boîte noire, mais ce qu'on peut observer malgré tout, c'est d'une part la très grande inquiétude de Pékin quant au contrôle du narratif. L'objectif premier de Pékin dans cette affaire et en matière d'influence d'une manière générale, c'est le contrôle du narratif. Il faut s'assurer que le narratif sur la Chine demeure positif partout. Donc éviter les sujets type Tibet, Xinjiang, droits de l'homme ou Tiananmen, par exemple. Et donc le fait que ces questions deviennent publiques, que de nombreux quotidiens ou médias australiens, néo-zélandais parlent de plus en plus de ces questions d'influence, de pénétration de la Chine, c'est un problème pour Pékin parce que ça fausse son image. Et ça démolit un petit peu tous les efforts consentis ces dernières années pour améliorer l'image de la Chine. Donc c'est pris avec beaucoup d'attention. Cela étant dit, la Chine peut utiliser d'autres moyens pour propager son influence en Australie et ailleurs.
C'est-à-dire
par exemple sur les campus, là, on sait qu'aujourd'hui il y a une très grande inquiétude des universités, des chercheurs, parce que la Chine fait pression par l'intermédiaire des étudiants présents, des étudiants chinois présents dans les universités. Dans toutes les universités occidentales aujourd'hui, la communauté chinoise est l'une des premières et souvent la première. Donc ces étudiants peuvent être mobilisés souvent à l'instigation des autorités chinoises, des ambassades présentes sur place, ça a été le cas en France aussi, pour empêcher l'organisation de conférences sur des narratifs négatifs, justement, sur des sujets qui fâchent.
Je vais dire très clairement les choses, parce que vous parlez de narratifs négatifs. Je vais prendre un exemple très clair. Par exemple, le livre d'un universitaire qui s'appelle Clive Hamilton a été refusé par des éditeurs On pense quand même que la raison, c'est parce qu'il abordait justement la question de l'ingérence chinoise en Australie. Voilà, c'est ça le narratif négatif.
Son livre a été refusé par 3 éditeurs successifs. Il a finalement trouvé une maison d'édition pour le publier. Et aujourd'hui, le livre rencontre un certain succès. Mmh. Donc, malgré tout, ça se finit bien. Mais voilà, la volonté de Pékin, c'est effectivement de contrôler ce type de narratif. Et sur les campus, ils sont très actifs. Dans les revues, sur ce qui est publié. Et ils peuvent faire pression sur les chercheurs en les privant d'accès au terrain chinois. Si vous êtes sinologue et qu'on vous empêche de venir en Chine pour faire votre terrain, c'est extrêmement compliqué de continuer votre métier.
Ouais, donc on voit que la riposte est clairement là du côté de Pékin. Merci beaucoup, Paul Charron, d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du domaine pensée stratégique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, et un spécialiste de la Chine. Merci à vous. Merci. Grand merci à vous, François Stomme, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne et auteur de cet ouvrage « Comprendre le poutinisme » sous-titré « Pour sortir du mensonge » qui était paru en février 2018 chez Desclés de Brouwer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On poursuivra nos pérégrinations sur la corruption demain. On entend là à l'instant Iggy Pop et son titre « Corruption », ça sera pour demain 11h, mais pour l'heure, c'est Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et encore un livre sur le populisme.
Piquer un monstre à coups d'épingle est vain, cela procure de médiocres satisfactions qui donnent tout au plus l'illusion d'agir. Eh bien je ne me lasse pas de cette citation du prix Nobel polonais de littérature, Czesław Miłosz. Toute la classe politico-médiatique d'Occident dénonce le populisme et les populistes depuis des années. Cela n'a pas empêché ni les Britanniques de décider de quitter l'Union européenne, ni les électeurs américains de confier la présidence à Donald Trump, ni les Brésiliens de porter Bolsonaro au pouvoir. Quant aux Hongrois, eh bien, ils viennent à nouveau de faire un triomphe aux fidesz de Viktor Orban. Dénoncer le populisme est devenu un rituel sans risque. Il permet de se donner bonne conscience, de déclarer sa propre appartenance au camp du bien. Mais sans doute, vaudrait-il mieux traiter les problèmes qui alimentent le vote populiste et pour y parvenir, essayer de comprendre de quoi il peut bien être le symptôme. Je ne m'attendais pas à ce que Donald Trump soit élu président, écrit Stephen Harper. Mais à la différence de la plupart des observateurs, je ne l'excluais pas non plus. Eux, ils avaient prédit que Trump ne pouvait pas l'emporter, qu'il ne pourrait jamais gagner, parce que c'était un crétin et un raciste. Et donc, ils présumèrent que les électeurs devaient être eux-mêmes des crétins et des racistes. Ainsi commence le livre qu'il vient de publier, « Right Here, Right Now, Politics and Leadership in the Age of Disruption ». Ici et maintenant, politique et leadership à une époque de disruption.
Alors Brice, vous nous rappelez qui est Stephen Harper ?
Eh bien ce politicien canadien a réussi en 2006 à ravir de justesse le pouvoir aux libéraux qui gouvernaient le pays depuis 13 ans, exploit. En 2008, il a été réélu Premier ministre du Canada avec une majorité moins étriquée. C'est un politicien pragmatique qui avait préalablement réussi la fusion des droites afin de l'emporter. Il a été finalement battu par Trudeau Junior en 2015. Aujourd'hui, il a abandonné la politique comme on le fait généralement dans les démocraties. Lorsqu'on a mené son parti à la défaite. Si tant d'Américains et tant de conservateurs ont voté pour Trump, poursuit Stephen Harper, c'est parce qu'ils estiment que la mondialisation ne se traduit pas positivement pour eux, je cite, « nos valeurs, des sociétés libres, des marchés libres, la liberté du commerce et des mouvements se sont propagées dans le monde entier, mais voilà le problème, la mondialisation a été un succès pour bien des peuples du monde, mais pas tant que ça pour nos propres peuples. » Et Harper reprend à son compte en la citant la lumineuse analyse faite par le Britannique David Goddard, que j'ai déjà cité ici, décidément l'analyste politique le plus cité ces jours-ci, et je m'étonne qu'il n'ait pas encore trouvé un éditeur pour le publier en français. Voilà ce que disait David Goddard, je rappelle, dans nos vieux pays, la mondialisation, les nouvelles technologies et l'évolution des mœurs semblent opposer deux nations aux intérêts et aux sensibilités divergentes. Vous avez d'un côté les gens de n'importe où, les people of anywhere, et le peuple de quelque part, people of somewhere. Les premiers profitent des fantastiques opportunités qu'offrent à leur formation supérieure un monde ouvert aux compétences et aux talents. Les seconds sont attachés à leur pays, à leur région, à leur communauté locale et voient avec anxiété leurs emplois et leur mode de vie remis en cause par une modernité récemment passée en mode turbo. Eux dépendent de l'État-nation alors que les gens de n'importe où jugent cette institution dépassée. Eh bien, il devra y réfléchir davantage, avertit Stephen Harper. Un monde fluide, libre et ouvert, c'est très bien. Mais qui garantit la validité des contrats et celle des informations ? Qui lutte contre la fraude et protège la propriété intellectuelle ? Qui sécurise les échanges en veillant sur la monnaie ? Les États. Contrairement aux rêves des gens de n'importe où, il n'y a pas d'alternative multinationale à ces fonctions assurées par les États. En outre, chaque nation fait ses propres choix, en arbitrant entre des objectifs contradictoires. Jamais le monde entier, je cite, ne tombera d'accord sur la meilleure manière d'équilibrer égalité et opportunité, sécurité économique et innovation, santé et risques environnementaux face au bien création d'emplois et croissance, résultats économiques versus tradition culturelle. Les gens de n'importe où, dit Stephen Harper, voudraient pouvoir butiner comme des abeilles, avoir à la fois les résultats économiques de la Chine, les protections légales américaines, des gouvernements aussi généreux que ceux de l'Europe, mais des impôts du style panaméen. Bref, ils assument de moins en moins leurs responsabilités locales et se comportent comme des touristes. Eh bien, c'est ce fossé entre élite et peuple qu'il faut combler, sans faire preuve de suffisance ni d'arrogance, en traitant, comme l'a fait Hillary Clinton, de déplorables ceux qui expriment leur frustration en votant populiste. Pour l'ancien Premier ministre canadien, donc, les conservateurs sont mieux équipés pour le faire que les progressistes, en s'inspirant d'un principe de liberté ordonnée, tout en avançant un agenda moral modéré qui protège les valeurs traditionnelles. Ce qu'il faut, c'est rassurer les gens, dit-il. Sinon, ils continueront toujours plus nombreux à contester le système et à voter populiste.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, cher Brice, dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.